Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, on va ouvrir un texte de notre Bible, si vous voulez m'accompagner. Et je vous propose une première lecture. Alors, je vous donne l'indication tout de suite. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54, un texte qui nous parle, eh bien, d'espace qui nous ouvre de nouveaux horizons. Et je parle sur le plan, non pas territorial, mais sur le plan moral. Voilà. Alors, nous allons lire ce passage d'Ésaïe 54, les deux premiers versets, enfin, le verset 2 et le verset 3. Et vous allez reconnaître. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas. » Voilà, ne crains pas. Alors, il est intéressant de prendre en considération, surtout dans les temps qui sont les nôtres, mais ça a toujours été comme ça, parce que Dieu veut nous voir épanouis. Retenez bien le mot « épanouis ». Parce que si nous sommes épanouis, nous porterons l'épanouissement, notre épanouissement, et le concept d'épanouissement est bien tout autour de nous. Non pas seulement au niveau de l'Église, mais peut-être dans notre vie sociale. Et vous savez que Jésus nous a enseigné la liberté. La parole de Dieu est une parole de liberté et de mise au large. Je ne sais pas si nous nous souvenons. Eh bien, des moments où nous nous sommes convertis, nous étions pleins de craintes, tantôt pour une chose, tantôt pour une autre. Et c'est vrai que nous avons découvert, dans les paroles de Jésus, dans la personne de Jésus, qu'il y avait quelque chose de formidable et que nous commencions à respirer, eh bien, un nouvel oxygène ou un air nouveau. Le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « ouverture d'esprit » et qui nous parle de largeur, qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de développement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important dans un monde de confinement. Alors on sait de quoi on parle, puisque on l'a vécu aussi d'une manière très physique il y a quelque temps. Et puis je crois que c'est aussi quelque chose qui doit accompagner notre conversion, notre rencontre avec Jésus, et qui ne doit pas être un rétrécissement, une suffocation dans des lois, dans des façons de faire, qu'elles soient ecclésiales, c'est-à-dire qui concernent l'Église, ou qu'elles soient sur le plan, eh bien, là, de notre vie de foi, de piété. Alors j'aimerais, il y a un autre texte qui est tout à fait complémentaire. Alors, on va garder naturellement en mémoire Ésaïe, chapitre 54. Et puis, dès la parution de Jésus dans ce monde, dans l'évangile de Luc, et au verset 4, vous allez bien reconnaître qu'il y a là véritablement une complémentarité ou tout simplement un correspondant qui véritablement nous parle de largeur, qui nous parle de liberté, d'affranchissement. Alors, je vais vous donner donc Luc 4, verset 17, et vous allez naturellement bien reconnaître ces choses. Verset 16, Il se rendit à Nazareth, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, c'est dans Ésaïe 61, mais ça c'est pour mémoire, hein. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a mis à part, parce qu'il m'a ouvert de nouvelles portes, de nouveaux horizons pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et le verset 21, un peu plus bas. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors voilà donc pour la situation au niveau de ce que nous dit la Bible. Et nous avons naturellement le témoignage d'une exhortation, d'un encouragement de Dieu, témoignage, qui met en relief, en quelque sorte, la condition des hommes qui est contraire à ce que nous venons de lire. Mais je mets ça, là, en parallèle, pour que nous comprenions bien ce qu'est la liberté et ce qu'elle n'est pas. L'invitation royale que Dieu nous donne en tant que roi de l'univers, et nous, petite poussière sur la terre, où nous sommes souvent, engoncés, nous sommes souvent, étranglés, et nous suffoquons dans des choses qui, quelque part, nous rendent malheureux. Alors, il y a la libération de l'asservissement de la pensée et des habitudes addictives. La pensée d'abord, parce que ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc., etc. Et ça commence par la pensée, parce qu'on nous l'a, mis en loi, en quelque sorte. On nous l'a imposé, et c'est véritablement, là, des traditions humaines, souvent des traditions humaines, même si elles touchent la piété, la foi, le monde religieux. L'asservissement de la pensée, qui fait que nous prenions des habitudes et qui, elles, deviennent addictives. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous en passer parce que c'est comme ça. Tout le monde le fait. Tout le monde pense de cette manière avec une variété innombrable, on pourrait dire, de façon d'être, de façon de penser, de façon de vivre. Et nous avons donc, ce que je pourrais dire, une parole de délivrance à travers la bouche de Jésus, une parole de délivrance appliquée. Et je vous donnerai quelques applications d'ici quelques instants. Alors, pour bien faire la comparaison, et peut-être nous y échappons pas non plus, nous, dans nos églises charismatiques et évangéliques, comme les autres, ça c'est certain. Avec peut-être, parce que nous connaissons la parole, avec un petit peu plus d'oxygène, un peu plus de libération, parce que nous nous sommes convertis. Mais il y a énormément, il y a des millions et des milliards de gens qui sont complètement, resserrés sur eux-mêmes. Ouverture d'esprit, ça c'est important. Ouverture d'esprit, je vous ai cité un adjectif, largeur. Ouais. Dieu nous a mis au large par l'écoute de la parole qui a créé la foi à l'intérieur de nous-mêmes. Non pas une croyance, parce que c'est ça le contraire, c'est la croyance. Croyance sur lesquelles on ne réfléchit pas parce que c'est imposé, parce que c'est comme ça, parce que nous appartenons à une caste tout à fait particulière, religieuse, etc., etc. On a des souvenirs par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette largeur, que cette mise à l'écart et cette mise au large, pas à écart, mais mise au large? C'est d'abord, en effet, c'est faire preuve d'accueil. Vous savez qu'il y a un grand débat dans nos nations, la démocratique, accueillir. Alors, on n'accueille pas tout le monde, naturellement, et on sait pourquoi. Parce que, on sait les résultats. Ça veut dire aussi tolérance. C'est-à-dire que l'autre n'est pas comme moi, mais je dois tolérer qu'il ne soit pas comme moi, tout simplement. Ça a aussi une connotation d'empathie, ou de sympathie, si vous voulez. Au lieu de m'opposer à celui qui ne pense pas comme moi, qui ne croit pas comme moi, je dois considérer qu'il est humain. C'est une créature de Dieu, et c'est pas pour ça que je vais lui faire la guerre. Et les religions ont été on peut dire, hein, en tête de file pour faire la guerre, avec des principes, avec toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec les paroles de Jésus. Cette empathie, parce qu'il y a d'autres qui sont aussi des créatures comme je suis, mais pour faire des choix et des idées qui sont différentes des miennes. Et je dois les accepter. Et quelquefois, ça passe très mal. Hein. Dans le social, par exemple, on connaît les partis hein, dans notre pays. Sur le plan religieux, je l'ai dit. Sur le plan, finalement, de la manière de vivre, de la manière de manger, la manière de... tellement de façons différentes. Mais je ne suis pas à obliger les autres. Et je dois les considérer, c'est leur vie tout simplement, et c'est souvent, ils sont tributaires, hein, ou ils sont otages de leur éducation. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Hein. Et puis, d'avoir de l'intérêt pour l'autre. Il n'a pas la même couleur de peau que moi, mais c'est un homme, voilà. Il n'a pas les mêmes langages que moi, mais il parle. C'est une qualité supérieure de l'humanité, naturellement, la parole, parler, le langage. Et puis, d'avoir de la compréhension, parce qu'il y a des fois, quelquefois, que eh bien, j'ai du mal à comprendre parce que, voilà, c'est différent, la différence. D'avoir de la bienveillance, et puis de me permettre de nouer, par-delà peut-être, eh bien, la communication, eh bien, l'amitié, la fraternité. Et c'est un langage universel, ça, hein. Et c'est ce que Jésus est venu dire dans une autre façon, et on va le revoir dans son contraire. Maintenant, dans tout ça, pour bien mettre en valeur les mots que je viens de citer, je voudrais vous parler de l'inverse. L'inverse, ouverture ou fermeture d'esprit, sont contraires pour être ce que nous entendons quelquefois, l'étroitesse d'esprit, la mesquinerie. Les petites choses qui sont quelque part, eh bien, de ma part, quelque chose lorsque j'en parle, eh bien, péjoratif. Ce n'est pas quelque chose de positif en tous les cas, hein, et la mesquinerie. Le rigorisme, alors le rigorisme, c'est particulièrement, eh bien là, on pourrait dire la version religieuse des choses. Hein. Voilà, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et c'était justement le problème dans lequel était tombé Israël dans l'Ancien Testament. Ce peuple, dira Dieu, il a un cou roide. Il n'y a qu'une voie, il n'y a pas autre chose. Hein. Et puis, ce qui est strict, ce qui est excessif, et c'est ce qui fait finalement, eh bien là, par-delà même les mésententes, le racisme, eh bien, on pourrait peut-être dire bien d'autres choses. Ce qui est implacable est fermé. Vous savez que Jésus a eu maille à partir avec les pharisiens, parce qu'ils savaient une chose, c'était leur chose à eux, tout simplement. Les sadducéens, c'était pareil. Ils avaient leur vision de Dieu, de la foi, etc. Et ils étaient opposés, hein, ils ne s'entendaient pas. C'est être imperméable à ce qui peut se passer autour de moi et les hommes qui sont autour de moi. Je veux rien savoir, c'est moi qui ai raison, moi j'ai la vérité et ils sont tous dans l'erreur. Bon, je mets ça un peu devant vous, l'intransigeance dans les jugements. Voilà, parce qu'il n'est pas comme ça, parce qu'il ne parle pas comme ça, parce qu'il ne fait pas comme ça, eh bien on est intransigeant. Jésus a donné les fameuses paraboles sur l'intransigeance des pharisiens. Hein. Ah oui, ça c'était pour moi. Les crispations, hein, quand je me retrouve dans mon milieu, c'est bien parce qu'on se connaît, les uns et les autres et tout ça, mais dès que je sors un petit peu de ma zone qui est à moi, hein, d'une façon ou d'une autre, alors je ressens un malaise, je suis crispé, j'arrive pas finalement à comprendre que je suis pas seul au monde, quoi qu'il en soit. La peur peut être aussi un facteur de fermeture, et ça se comprend. Il y a également nos mentalités qui sont nos mentalités qui ont été eh bien là inscrites en nous parce que depuis mon enfance ma culture etc etc ça c'est le fond de la mentalité que nous pouvons avoir. Vous savez que les Français ont une mentalité qui est différente des Anglais et des Allemands, hein. Nous on prend du Bordeaux mais eux ils prennent du thé. Hein, voilà, bon, voilà, mais bon, hein, parce que quand vous regardez même sur le plan de nourriture, regardez, il y a les Arabes, c'est halal, les autres, les Israéliens, là, c'est kasher, et puis chacun a sa petite sauce, hein, faut bien le dire. Hein. Alors voilà, et puis ils veulent pas en sortir, mais c'est comme ça, mais faut les respecter. Voilà, moi ça ne me dérange pas, hein, mais il faut savoir les respecter. Et que ce ne soit pas un sujet de dérision, en tous les cas, qui alimente, eh bien là, une rupture, qui alimente... Alors, ça se voit lorsqu'il y a des mélanges comme ça, à travers des mariages, etc. Et ça pose des problèmes, hein. Ah oui, l'ouverture d'esprit. Un libéralisme qui n'est pas aveugle, mais un libéralisme qui consent à aimer. Nous en reparlerons justement de ce critère de l'amour qui nous permet d'être auprès de tous en les aimant et non pas en les détestant ou en les rejetant. C'est la grande politique d'aujourd'hui, c'est une philosophie dans notre monde et on se dit mais comment ça va finir toutes ces choses? Comment ça va finir? Parce que moi je ne voudrais pas vous effrayer, mais les guerres, elles viennent bien de là. Les conflits, les divorces, même entre quand il y a différentes éducations, naturellement. Puis je terminerai, c'est que le manque d'ouverture, avant d'aller plus loin, le manque d'ouverture morale, il peut être moral, il peut être intellectuel, et il révèle et affirme l'orgueil et la prétention d'avoir toujours raison. Le monde est malade. Le monde est mauvais. À cause de ça, il y a le péché originel, naturellement, mais à cause de ça qui vient se mélanger et qui fait que, on est dans cette... Je ne sais pas si vous reconnaissez dans ce que je dis, mais on va voir maintenant ce que Jésus nous dit. Et il le dit parfaitement. Alors, il y a ce texte, on l'a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 4, « Je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et Jésus va toucher à la fois les faiblesses, les péchés, les conceptions d'un monde malheureux. D'abord, il parlera de la souffrance physique. Eh oui, on n'est pas tous en bonne santé. On peut avoir des infirmités de nature ou accidentelles. Ben oui, mais c'est aussi quelque part, des complexes, tout ça, hein, parce que je ne suis pas comme tout le monde, etc. Et il dira ceci, « Vous qui êtes fatigués et chargés, je suis venu, pensez les plaies. » Eh oui, moi, je n'ai pas regardé. Je n'ai même pas regardé le Samaritain et celui qui était blessé sur le bord de la route. Jésus le dit, à travers la fameuse parabole dans Luc chapitre 10. « Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. » Et Jésus s'ouvre, lui, pour que tous ceux qui sont dans cette condition matérielle, de santé précaire, et qui vont passer toute leur vie comme ça. Il y en a qui vont devenir, mutilés, des choses comme ça, mais c'est en cours de vie. Il y a des aveugles nés, et puis il y a des aveugles qui vont le devenir par accident, je ne sais pas, il y a toutes sortes de choses. Alors, Jésus se penche sur cette humanité, et il dit, mais si vous êtes dans cet état, moi je suis venu pour vous. Je ne regarde pas, et je ne veux même pas chercher pourquoi, vous avez telle maladie. Donnez des raisons parce que tu es malade, parce que tu as péché, parce que tu as fait ceci et cela. Non, Jésus met au large, en tous les cas lui-même, est dans cet état d'esprit de largeur. Et puis il y a souffrance morale. Il dira, mais je suis venu pour les cœurs brisés. Ouais, ton cœur saigne, ton cœur est malheureux. Et pourquoi cela? Parce que tu as fait des mauvais choix, peut-être, c'est vrai. Mais Jésus ne juge pas, il ne condamne pas. Et il est venu véritablement pour ceux qui ont eu des accidents, sur le plan de leur vie morale, sur le plan de leur cœur qui a été peut-être maltraité, qui a été blessé, qui a été confondu. Alors, je suis venu pour les cœurs blessés, les cœurs à l'intérieur de nous, mais ça ne se voit pas. Quelquefois, il n'y a même pas de signe qui dénote que les gens sont profondément malheureux à l'extérieur physique et à l'intérieur moral. Les captivités en tout genre, il y a des gens qui... Personne ne veut aller en prison, mais il y en a qui s'y mettent. Ah oui. Alors là, peut-être on peut parler des erreurs et des fautes qui sont commises, mais même ça, même Jésus est venu justement, puisqu'il le dira, allez visiter les prisonniers qui sont captifs. Il le dira dans une belle parabole, là, que je crois que c'est dans Matthieu, je ne me souviens plus, tout à fait de la situation dans l'évangile de Matthieu, mais il parle des captivités, et c'est ce que nous avons, et j'aimerais tout simplement le mettre en parallèle avec ce que nous avons lu tout à l'heure, hein, dans le chapitre que je retrouve, chapitre verset 17, quand il dira cette parole, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, parce que c'est toujours la base de notre référence, et c'est toujours la base qui nous donne d'apprécier le bien et le mal, la parole de Dieu, hein. Sachons-le, hein. Alors il dira tout simplement, eh bien, cette chose que je suis en train de parler, des captivités en tout genre, l'Esprit du Seigneur, dira-t-il, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. La première chose qui apparaît dans la bouche de Jésus et dans le comportement de Jésus, c'est qu'il n'est pas venu donner une mauvaise nouvelle, comme les condamnations de l'Ancien Testament, mais il est venu dire exactement le contraire, une bonne nouvelle, c'est l'Évangile, et je suis envoyé pour guérir les cœurs blessés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et pour ceux qui ne voient pas, que ce soit physiquement ou que ce soit moralement, eh bien, aux aveugles, le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. Alors il y a tout un enchaînement dans ce que nous sommes en train d'exposer. Ceux qui sont captifs, l'aveuglement moral. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils voient, mais ils ne saisissent pas. Et Jésus est venu les éclairer. Et puis, il n'y a bien que la lumière de la parole de Dieu, dont Jésus, l'esprit de cette parole est sur moi, pour vous dire ces choses. Et nous voyons qu'il est venu pour nous sortir de l'errance, dans l'obscurité qui est la nôtre, et l'ignorance, à défaut d'avoir la connaissance de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu qui a franchi. Et il nous est parlé après de l'oppression des hommes. Et les oppressions sont très subtiles, parce que ça se fait d'une manière très habile à travers les religions, à travers les sectes, à travers toutes ces déviations que nous avons et qui captivent, et les hommes sont opprimés. Moi, je crois qu'il y avait une grande joie, et il y a une grande joie quand un homme, une femme, quel que soit son âge, eh bien, découvre que Jésus est venu nous délivrer de nos oppressions, de nos carcans, dans lesquels nous avons été élevés, que nous n'avons peut-être pas choisis, mais dans lesquels nous suffoquons. Religion, les coutumes et les traditions qui courent le monde d'une manière ou d'une autre. Vous avez des traditions qui sont proprement, eh bien, là, des pays occidentaux. Et puis vous avez des traditions également qui viennent en Asie, en Afrique et tout ça. Il y a de quoi, quelquefois, être choqué, hein, quand on voit tout ça. Et des gens qui sont profondément malheureux. L'asservinement, et là c'est encore une autre affaire, parce que ça donne une bonne conclusion de cette petite parole que nous avons dans Luc, l'asservissement du monde invisible et ténébreux, qui fait que nous sommes véritablement, eh bien là, enfermés dans toutes sortes de choses, mais qui dépassent notre raison, qui dépassent notre responsabilité même, à moins qu'il y ait trafic avec le monde occulte, hein, bien sûr, sciemment, mais les gens tombent dans des pièges, dans toutes sortes de choses, à travers des chaînes indétectables, qu'on ne peut pas arriver à détecter. Et là, Jésus nous le dit, voilà, je suis venu pour les cœurs brisés, les captifs apporter leur délivrance, les aveugles pour qu'ils puissent voir, et renvoyer libres les opprimés, c'est ce que nous avons eu, l'oppression du monde, d'un monde dans lequel nous voyons que le monde, les hommes autour de nous se vautrent. Hein. On dit ça, ça fait partie de la préhistoire, enfin pas de la préhistoire, mais de l'Antiquité et tout ça, à travers de... Vous savez que notre monde du XXIe siècle, les gens n'ont pas renoncé au trafic occulte, aux choses, et qui est imprégné de toutes les manières. Et même, la parole nous dit que dans les derniers temps, ça sera encore pire qu'avant. Pire qu'avant. Alors, il y a tout un programme qui, eh bien là, s'échelonne au fil des siècles, au fil des ans, et le message de Jésus était vrai au moment où il est venu il y a 2000 ans, mais il est encore 2 fois plus vrai encore, ou 10 fois plus vrai encore aujourd'hui. Je suis venu apporter une bonne nouvelle. Eh oui, pour vous mettre au large, pour vous donner de la largeur, pour vous personnellement, mais aussi pour que vous puissiez comprendre, sans jugement, sans condamnation, eh bien tous ces gens qui souffrent, qui soupirent, qui sont là, eh bien, profondément malheureux et qui traînent dans leur misère et dans leur malheur. C'est ça la parole de Jésus. Elle est là, naturellement, et nous l'avons et nous le répétons encore aujourd'hui. La pensée, la mission de Jésus, nous dit la Bible, eh bien, c'est de prêcher la parole de Dieu. Je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. Jésus ouvre le livre de l'Ancien Testament, hein, dans la, comment c'est dans une synagogue, hein, et il va découvrir. Et il dira même, à la fin et en conclusion, eh bien, cette parole est aujourd'hui réalisée. Donc, c'est pour nous, c'est pour chacun, c'est pour nos églises, c'est pour le monde autour de nous, s'il veut bien naturellement eh bien, se prêter à croire à cette parole. Voilà. Parce que cette parole de Dieu, dont Jésus nous parle, a la réputation d'être sûre et fiable. On ne va pas chercher d'autres moyens, d'autres recettes. Si vous avez la parole de Dieu, vous avez tout. D'abord, dans le Verbe incarné qui est Jésus, et puis dans ce qu'elle nous dit, si nous voulons véritablement bien nous prêter à croire et à recevoir naturellement cette... Et d'ailleurs, vous avez remarqué dans le texte de Luc, Jésus dira, et il va faire l'énumération, et bien là, de ce qu'il est, de ce qu'il fait finalement. « Je suis venu annoncer, j'ai été envoyé, je suis venu pour proclamer, pour publier une année de grâce. » C'est ça la liberté, qu'est-ce que c'est ? Eh oui, c'est ça la liberté. Et je suis venu délivrer un message secret ou qui révèle ce qui est secret pour l'ignorant, mais qui devient une vérité. Eh bien, c'est le secret de la puissance de l'Esprit de Dieu qui est sur nous. Vous savez que c'est important. C'est pas seulement d'être... C'est pas seulement d'avoir demandé pardon de ses péchés à Jésus. C'est pas seulement d'avoir entendu et d'avoir fait naître, d'avoir accepté la foi dans notre cœur. C'est qu'après, il y a la conversion à Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous en avons choisi un seul. Et c'est pas une religion, c'est une personne. Et qui va nous faire, qui va nous régénérer, qui va nous amener à la nouvelle naissance. Et pour ceux qui sont charismatiques, pour ceux qui veulent devenir charismatiques, de recevoir l'Esprit de Dieu. Ouais, l'Esprit de Dieu qui va nous enseigner toutes choses. Et Jésus le dira d'ailleurs, je crois, dans Jean chapitre 16, il dira, mais le Consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Il ne vous conduit que dans la vérité et pas dans l'erreur. Attention, attention. L'Esprit du Seigneur est sur moi, et je crois que nous-mêmes n'oublions pas que pour ceux qui parlent en langue, qui ont fait cette expérience du charisme, hein, de cette baptême du Saint-Esprit, on pourrait dire, de cette effusion de l'Esprit, eh bien, c'est quelque chose qui véritablement nous accompagnera jusqu'au bout si nous restons fidèles au Seigneur. C'est un message qui est pour nous aujourd'hui. Je vais aller encore un peu plus loin, et on va revenir à Ésaïe, que nous avons lu tout à l'heure. « Élargis l'espace de ta tente. » Donc, les concernés, nous l'avons dit, les pauvres et les captifs, les aveugles, les opprimés, les persécutés, les tourmentés, etc., etc. Aujourd'hui, c'est maintenant, et je l'ai affirmé déjà plusieurs reprises déjà depuis que je parle, c'est un présent, c'est maintenant et un présent. C'est pas quelque chose qui appartenait à hier, c'est pas quelque chose qui appartient à je ne sais quelle décennie qui vont venir, mais c'est un maintenant présent qui est accompli et qui est saisi par la foi. Et de pouvoir confesser, de pouvoir dire, en toutes circonstances, je crois. Ça suffit. C'est simple, hein. Vous vous rendez compte? Quelquefois, il y a des œuvres à faire, mais à demande du travail, de toutes sortes de choses, des efforts. Mais là, c'est simplement de le dire, de le déclarer, je crois. Et parce que je crois, eh bien, je suis sauvé, avec tout ce qui peut comporter, finalement, eh bien, cette déclaration. Nous avons dans cette parole, et elle est pour tous, qui entendent l'appel du Seigneur. Oui. Vous savez que ce texte a fait énormément de bien à travers les âges, à travers les temps, quand Jésus nous dit « Dieu m'a envoyé pour ceci, pour cela, etc. etc. » Et c'est ça le début d'une libération. C'est possible. Vous qui vous reconnaissez peut-être dans une certaine pauvreté, quelle que soit la nature de la pauvreté. Vous qui vous reconnaissez peut-être comme aveugle, comme captif. Eh bien, c'est maintenant, c'est ce matin que vous pouvez prendre la délivrance. Parce que c'est par faire, ça a été fait. C'est comme la guérison divine. La guérison divine, il nous est dit, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et pour tout l'espace du temps, autant que nous resterons sur cette terre et que nous connaîtrons finalement le malheur et la misère dont nous voulons nous défaire. Ça, c'est important, c'est pour, finalement, pour nous. Alors, le carnet de route, on va le retrouver dans un passage, parce que tout repose sur l'amour. L'amour des autres, l'amour de ceux qui sont différents, l'amour qui ne sont pas ou qui ne pensent pas comme moi, C'est dans Éphésiens, et je voudrais simplement tourner la page, simplement pour le lire, je ne veux pas le commenter. Hein. Mais c'est quand même assez clair. Dans ce qu'il nous est dit, c'est l'apôtre Paul qui nous parle de cette manière. Et il est dit ceci, donc, dans Éphésiens chapitre 3 et verset 17, cette parole, et moi je trouve qu'elle est formidable, « Que Christ habite dans vos cœurs !» Oui, pas dans nos têtes seulement, hein. Force du raisonnement intellectuel et tout ça, qui vaut peut-être pour la vie terrestre, mais qui nous laisse complètement stériles sur la vie spirituelle et morale. « Que Christ habite dans vos cœurs par la foi !» C'est Éphésiens 3, chapitre 3, et verset 17. « Étant enraciné et fondé dans l'amour !» Eh oui, c'est la racine, c'est le fondement. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints, tous les chrétiens, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. C'est ça ce que nous avons besoin. Seigneur, remplis-nous d'amour, remplis-moi d'amour, pour moi, mais pour aussi les autres, pour que je puisse finalement rentrer dans cet espace, pousser l'horizon avec toutes ses limitations, avec toutes ses limites, et rentrer dans cette connaissance de l'amour de Dieu, parce qu'il nous a donné l'exemple à travers la personne de Jésus, l'accueil de Jésus pour toutes les misères sur cette terre. Et nous voyons que c'est fondé sur cela. Et s'il y a une prière que nous pouvons faire monter vers Dieu, eh bien c'est « Remplis-moi de ton amour, Seigneur ». Pas aller chercher midi à 14 heures. Ce n'est pas une question de « Remplis-moi de ta connaissance, remplis-moi de ta théologie supérieure, de ta sagesse, etc. » Non, « Remplis-moi de ton amour ». Et après, il y aura tous les fruits qui vont découler de l'amour, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit, la patience, la joie, la paix, la bienveillance, et puis j'en passe, c'est les meilleurs, hein, naturellement. C'est ça, le principe même de la transformation, de la régénération, de la nouvelle naissance. Nous avons besoin de prêcher dans nos églises un retour à la vie de l'Esprit, au baptême dans le Saint-Esprit, à la pratique du parler en langue, parce qu'il nous est dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
Amen.
Mais oui, ça c'est important. On l'oublie, nous les vieux chrétiens. On se dit que, ben oui, parce que bon, on a fait l'expérience et on a vu que ça fonctionne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quelquefois, quand on vieillit, on se dit, oh, ben on en sait assez. Mais non, on ne sait rien du tout. Et on a besoin d'être renouvelé dans cet exercice qui est le parler en langue et qui nous remplit de toutes ces qualités qui sont en Jésus-Christ. Ouais, à son image, selon sa personne, selon son œuvre, selon son bon vouloir et son bon plaisir. Tout ça, c'est les versets bibliques que je cite un petit peu comme ça. Mais alors, nous pouvons penser que nous avons notre part, et elle est à notre disposition, et c'est à nous d'en profiter. Le carnet de route, je le disais, élargit l'espace de ta tente. C'est un appel à la liberté. Ouais, un appel à la liberté. Élargit. Alors nous, on n'est plus dans des tentes, hein. Surtout par le temps qu'il fait. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est notre vie, quelque part, qui est présentée. Alors, prends de l'espace, donne-toi la possibilité de voir un petit peu ce qui se passe autour de toi et prendre en considération que Dieu t'a pas donné un endroit confiné, mais Dieu t'a donné véritablement une ouverture et une possibilité. Et il est dit, déploie les toiles de ta demeure. Alors naturellement, ça a deux sens, ça, naturellement. Hein. Le vent dont nous avons parlé tout à l'heure, le souffle de l'esprit, qui nous assure à la fois la protection et la direction dans notre vie. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Dieu ne nous abandonne pas. C'est un Dieu au présent. Hein. C'est, voilà. Hein. Et puis, il dira, mais voilà, ne soyez pas comme des mules, des ânes ou des mulets, non ? Oui, des mulets, hein, c'est ça le terme, qui quelque part, sont toujours en train de rabrouer parce que bon, ils ne veulent pas avancer. Eh oui, mais il y a des chrétiens qui ont peur, il y a des chrétiens qui sont pleins de crainte et qui ne veulent pas aller plus loin. Donc, élargis l'espace. Déploie l'étoile de tes demeures pour que tu puisses véritablement t'épanouir. Et puis, allonge les cordages c'est-à-dire donne du lâche à ta vie. Oui. Il y a trop de contraintes dont on se charge, hein, et quelquefois c'est la rigidité dont on parlait naturellement tout à l'heure. Hein. Il y a des gens qui ont des vies, même des vies spirituelles, qui sont engoncées, qui sont dans des règles, comme le train fonctionne sur deux rails. Voilà. Alors on se dit, mais ils pourraient vivre autrement. Ils pourraient être plus heureux, mais c'est comme ça, et c'est pas autrement. Alors, premièrement, ils se privent d'une bénédiction, mais quelquefois, ils enquiquinent les autres, hein, en disant, tu dois faire comme moi, ceci, cela, etc., c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, il est obsolète maintenant. C'est la grâce par la foi, tout simplement. On reçoit ou on ne reçoit pas. Mais recevoir une grâce, c'est recevoir un cadeau. C'est recevoir la bénédiction de Dieu. Mais la loi, c'est toujours, eh bien là, béni, ou alors le contraire, condamnation, punition. Et ce n'est pas à cela que nous avons été appelés. Alors, élargis l'espace, déploie l'étoile de tes demeures, allonge tes cordages, allez, donne un petit bout là. Hein, voilà. C'est quelque chose de formidable. Ah oui, je pense que c'est formidable. Donne du lâche. Desserre les liens dans lesquels tu t'es pris les pieds, ou même ton cœur, ou même tes pensées. Romps tes chaînes. Ça va encore plus loin, ça, parce que un lien, c'est une chose, mais une chaîne, c'est encore autre chose. Hein. Comme le gadarénien, par exemple. Jésus est venu le voir, et il a fait tomber ses chaînes. Hein. Et il est devenu un véritable chrétien. Eh oui, un véritable croyant. Pour aller de l'avant. Et vous savez comment on l'appelle dans notre langage d'aujourd'hui? Un lâcher-prise, mes frères et sœurs, qui suffoquaient dans des chaînes, qui suffoquaient dans des lois, qui suffoquaient dans toutes sortes de choses qui ne vous rendent pas heureux, ne vous épanouissent pas, mais lâcher-prise! Ah ouais, hein, personne ne me répond parce que c'est pas évident. Mais demandez à Dieu qu'il vous aide à lâcher-prise et vous verrez que vous rentrerez dans l'épanouissement. Trop de chrétiens sont tristes. Trop de chrétiens ne peuvent même pas ouvrir la bouche, même dans un culte, pour louer le Seigneur, alors qu'ils ont reçu peut-être dans la semaine beaucoup de choses, mais ça les rend aveugles de toutes les bénédictions de Dieu dont ils sont l'objet, et puis tout ça parce que finalement, ils veulent plaire à Dieu, mais au lieu de plaire à Dieu, ils déplaisent à Dieu par leur rigueur et leur rigorisme. Ah oui, c'est terrible, c'est terrible. Et je passe sur, finalement, toutes les théories sectaires. Eh oui. Alors là, je peux vous dire que la marge de manœuvre, elle est cadrée par le gourou, hein. Ça, c'est sûr. Mais Jésus n'est pas un gourou. Il est un libérateur. Il est roi. Il est seigneur. Allonge tes cordages. Affermis tes piquets. Vous savez ce que c'est qu'un piquet? Eh, c'est quelque chose pour maintenir une clôture. Hein, ou c'est quelque chose qui, même s'il est seul et qu'il n'y a pas de fil ou de barbelé autour, peu importe. Un piquet, c'est quelque chose qui est fixe. Alors, vous voyez, c'est un petit peu le... Faut faire la recette de la cuisine, là. Hein, hein, soit l'exigence, hein, le perfectionnisme qui rend malade, qui tue, ou alors, maintenant, il faut aussi qu'il y ait des assises, il faut qu'il y ait des racines. Affermis tes piquets, qui est l'image de la solidité, de la fixation, et là où nous avons abandonné nous avons capitulé sur nos crispations. Seigneur, si je fais pas ça, je suis culpabilisé, je suis malheureux, ceci et cela. Et ça, ce sont des crispations, hein, et qui ne peuvent pas finalement, eh bien, nous apporter à la détente, à la souplesse et à la flexibilité. Vous savez ce que c'est, ce qui est flexible? Eh bien, c'est que ça va avec le vent. Et moi, je dirais que ça va avec le vent de l'esprit. Hein. Ouais. La première conclusion pourrait être celle-ci. En français courant, le texte que nous avons dans Ésaïe chapitre 54, la conclusion pourrait être celle-ci. Il est dit, car tu te répandras à droite et à gauche. Ouais, tu te répandras. C'est-à-dire que tu seras un petit peu comme dans le psaume 23, il me fait marcher dans de verts pâturages, il me conduit auprès des eaux paisibles, je n'ai aucune crainte, et quand bien même finalement, eh bien, il y a des épreuves et des difficultés. Tu es toujours avec moi, Seigneur. Amen. Je te libérerai, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité, ton exemple, ton témoignage que tu donneras peut-être à tes enfants, que tu donneras peut-être à tes amis, qu'il soit plus vieux ou plus jeune que toi, ça n'a pas d'importance, envahira les nations. C'était pour Israël, ça. Ouais. Alors bon, on va sortir du contexte actuel, mais toujours est-il que... Oui, c'est ça. Et ça veut dire tout simplement, car tu vas t'agrandir de tous côtés, et n'aie donc pas peur, parce que le problème de cet esclavage, de cet enfermement dans lequel, voilà, par manque d'ouverture d'esprit, eh bien, c'est quelque chose qui nous rend malheureux, et la cause principale, c'est à la fois le manque d'amour pour Dieu, manque d'amour pour peut-être s'aimer soi-même, parce qu'il y a ça aussi, il faut en tenir compte, et manque d'amour pour les autres. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra pas aimer les autres. Et si on rejette finalement ce principe de l'amour, on ne peut pas aimer Dieu. En parole peut-être, mais pas en ce qui plaît à Dieu, c'est-à-dire, eh bien là, dans ce que nous allons rentrer maintenant, c'est-à-dire l'application. On va voir ça d'ici quelques instants. Pourquoi as-tu peur ? T'as peur de quoi ? T'as peur d'être libre ? T'as peur d'être heureux ? Eh oui, il y a des gens qui ont peur d'être heureux. Il y a des gens qui ont peur de... Ils sont pleins de craintes. Mais Jésus, le mot peur et le mot crainte, revient très très souvent dans les enseignements de Jésus. Oui ? T'as peur de monter dans la barque alors que Jésus est dans la barque avec toi ? Tu penses qu'il est à côté ? Non, il est avec toi. Donc n'aie pas peur. Il va te conduire au rivage, au vrai rivage. Et là, tu vas pouvoir encore découvrir de nouveaux horizons, une nouvelle terre, une nouvelle vie. Vous savez que la marche par la foi, c'est quand même, ça demande beaucoup de courage. Hein. Vous vous souvenez la fois où vous avez vraiment accepté Jésus en disant maintenant, ma vie passée, elle est passée, maintenant je vais rentrer dans une vie nouvelle. Il faut faire le pas. Hein. Et c'est pas seulement nous qui sommes quelquefois à réfréner les choses, mais il y en a un de l'autre côté qui ne nous aime pas, qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas la vérité et qui n'aime pas la liberté. Et là, il fait tout pour nous massacrer. Hein. Je dis bien massacrer. Parce que s'il peut nous avoir, il va nous avoir. Et qu'est-ce que nous écoutons ? Nous écoutons la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, ou nous écoutons ces carabistouilles ? Moi, j'aime bien le mot. Carabistouilles. Hein ? Ces mensonges. Toutes sortes de choses semblables. Mais c'est bien le problème dans lequel est tombé Adam et Ève. Ils ont préféré écouter le mensonge que d'écouter la vérité. Eh oui, alors on ne va pas refaire le monde. Ainsi le Seigneur proclame une année de grâce. Moi, c'est ce que je suis venu, même si j'étais en retard ce matin. Le cadeau que je voudrais vous offrir avec mes vœux, c'est la grâce de Dieu, que l'on reçoit par la foi, afin que personne ne s'enorgueillit, puisque c'est un don et un cadeau. Je n'ai pas pu apporter de cadeau pour le monde ce matin. Hein, ma voiture n'était pas assez grande. Où j'aurais été obligé de laisser Myriam à la maison parce qu'il n'y avait plus de place dans la voiture. N'est-ce pas, madame ? J'étais bien content d'être là. Bon, alors, une année de grâce. Et nous voyons que ce Dieu accueille les hommes dans sa faveur et c'est un gage de témoignage de notre foi, de votre foi. Je termine à travers, finalement, une réflexion qui va un peu scinder tout ce que nous avons dit. Et son application. Application pratique et application utile. Vous savez, on est quelquefois aux prises avec la nostalgie. Ah, c'était le bon temps, n'est-ce pas ? Oui, quelquefois on se dit, bah oui, mais c'était comme ça, hein, c'était ah, formidable. Mais oui, mais le bon temps, il est toujours là. Hein. Si on veut le voir, il est toujours là. Alors, c'est la nostalgie du passé qui, quelquefois, eh bien là, fait poids. Hein, mais pas forcément d'une manière positive. Et ces attaques de la nostalgie du passé vont se faire de plus en plus fortes et fréquentes en prenant de l'âge, car nous avons, en vieillissant, plus de passé derrière nous que d'avenir devant nous. Vous êtes d'accord ? Ah oui, hélas ! Malheureusement ! Moi qui suis déjà un vieil homme, âge canonique, ben quand je regarde quand j'avais 20 ans, je me dis, ben il est passé déjà 20 ans, ben ça fait déjà 50 ans. Hein. Maintenant, je veux bien vous donner rendez-vous dans 50 ans, avec vous, tous ensemble. Peut-être, hein. Oui, mais tout le monde dit oui, naturellement. Hein. Mais ça dépend dans quelles conditions. Hein. Oh, j'ai mal ici, j'ai de l'arthrose, et ceci et cela. Non, partons dans... Finalement, eh bien, c'est bien là-haut, c'est bien. Moi, je n'y suis pas arrivé, Mais j'ai lu le catalogue hein, pour y aller, et puis tout le reste. Hein. Voilà. Alors, réjouissez-vous. Mais c'est vrai que ça, ce sont les attaques du diable, de la nostalgie du passé. Et quand on voit que le passé, on est malheureux dans le présent, forcément. Et on doute de l'avenir. Parce que en vieillissant, quand on avait 20 ans, on était en bonne santé, on courait, on sautait, et puis toutes sortes de choses. Hein. Mais je vois qu'il y en a qui se... Parce que là, il y en a qui sont très expérimentés au milieu de nous. Oh là là, c'est difficile. Et c'est vrai que nous devons vivre avec ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Parce qu'il faut bien reconnaître, il y a davantage de choses faites que de choses à faire. Moi, je pars commencer ma vie comme quand j'avais 20 ans ou 30 ans ou dans les affaires, enfin toutes sortes de choses, c'est fini ça. Hein, voilà. Maintenant, je dois me concentrer sur quelque chose qui me prépare pour vivre pleinement, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, dans le reste qui me... Voilà. Et on apprécie beaucoup maintenant certaines choses. Moi, je suis content d'être à la retraite. Hein. Ah ouais? Je me lève à 3 heures l'après-midi. Bon, alors j'en dis pas plus. Hein, bon, parce que vous allez me juger après avoir dit tout ce que je vous ai dit. Hein. Eh oui, ça c'est sûr. Hein. Il y a davantage de choses faites que de choses à faire. La grande tentation dans tout ça, c'est de se laisser rattraper par notre passé. De se laisser enfermer dans nos prisons. De pleurer notre pauvreté d'aujourd'hui. Et puis toutes sortes de choses que nous avons énumérées. Donc c'est te laisser rattraper par le passé et nos souvenirs, parce que des albums photos, on en a quelques-uns maintenant, hein. Hein, ça c'est certain, et sur nos internets. Ainsi se fabriquer des moments heureux et tenter de les revivre. Eh oui, mais le passé, c'est fini, on n'en parle plus, hein. Ça c'est certain, de toute manière. Hein. Donc il y a les moments heureux, mais si je me laisse renfermer, à ce moment-là, je vais avoir comme possibilité eh bien, de ressasser tous ces moments qui sont malheureux. Non pas le bonheur, mais le malheur, hein, ou les choses qui sont désagréables. Alors, ne négligeons pas les belles choses de la vie, quelles qu'elles soient, hier, maintenant, demain, ou ces belles choses d'aujourd'hui, et en nous remémorant simplement les bontés de Dieu. Et ça, c'est un antidote, ouais. En me remémorant les bontés de Dieu. Vous savez, il y a un compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Et plus tu vas vieillir, plus il y en aura des bonnes choses. Parce que tu commences à rentrer, là, à mettre dans ton sac de plus en plus de bonnes choses. Parce qu'autrement, tu vas te perdre dans toutes sortes de choses. Puis je finis. Soyons toujours et encore émerveillé par l'existence. Moi, je ne sais pas si vous pourriez me répondre ce matin. Je dis bien émerveillé par l'existence que Dieu nous a donnée. Il y a des fois, je dirais, je prie moins maintenant que je prie moins que je ne loue le Seigneur. Eh oui, c'est vrai. Je vous dis ça parce que c'est vrai. D'ailleurs, Seigneur, eh bien, tu as fait ceci dans telle circonstance. Tu as pris soin de moi. Voilà. La prière a toujours sa place. Ça, c'est certain. Parce qu'on prie pour les autres. On prie pour notre famille. On prie pour ceux qui sont autour de nous. On prie pour les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais de pouvoir commencer notre prière en disant, Seigneur, je te remercie pour ceci, pour cela, etc. Parce que je crois que la louange et l'action de grâce, elle glorifie le Seigneur. Nous n'oublions pas. Ouais, nous n'oublions pas. Parce qu'il ne faut pas devenir des ingrats. Et on peut le devenir à un moment donné, en vieillissant. Et le Seigneur a fait tellement de choses. Et ça entretient notre foi naturellement. Hein. Émerveillé par l'existence d'être et d'avoir vécu. Ouais. Certaines choses. Et des choses qui n'étaient pas très intéressantes, mais bon. D'avoir vécu le passé. Et c'est bien, mais l'exaltation du présent, de ce que je suis maintenant, il est toujours nouveau cette exaltation, parce que ça ne s'arrête pas au moment où les choses stoppent, hein, pas du tout. Hein. Et de continuer à vivre, parce que c'est ça, il faut aller jusqu'au bout. Continuer à vivre. Dans le monde actuel, où on traite, ou maltraite le présent, avec cette folie de la vitesse. Hein, les trains, les avions, les bateaux, etc., etc. Parce qu'on est dans une folie de vitesse, hein, faut pas se faire d'illusion. Hein. C'est terrible, hein. C'est terrible. Alors, on maltraite le présent avec une frénésie dévorante. On est souvent tendu vers ce qu'on voudrait encore avoir, qu'on pense qu'on n'a pas eu encore. Alors, on est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, quelque chose encore plus grand, plus fort, etc., etc. Et dans lequel on ne s'émerveille plus de ce qu'on a déjà reçu, en se plaignant dans ce qu'on voudrait encore avoir, et avec la peur de perdre. Bon, j'essaie de formuler ça comme je peux, là. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'attention, on a besoin de se tenir devant Dieu. Et on l'a dit, il faut une ouverture d'esprit et ne pas nous arrêter en cours de route. Qu'est-ce que veut dire se contenter ? C'est renouveler le bonheur et la paix du jour présent. On est ensemble. Est-ce que vous êtes heureux ? C'est hésitant. Non. Manifestez votre émerveillement et votre enthousiasme de ce que je suis venu jusqu'à vous ce matin. Voilà. Et cela s'appelle le savoir-vivre, non pas la politesse, hein, parce qu'on a aussi cette expression, mais le savoir-vivre, savoir prendre le meilleur et de bénir le Seigneur. Et de lui rendre grâce naturellement, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Jésus propose une année de grâce. Amen. C'est pas un jour. Une année de grâce jusqu'à la fin, jusqu'au moment où nous rendrons le dernier souffle. Et de l'autre côté s'ouvrira, eh bien, les portes d'or, les portes éternelles, comme les psaumes le disent. Hein. Voilà. Et vous verrez, quand vous ferez la comparaison, parce que tout sera parfait, vous direz, mais la vie, c'était une chose. La vie était une école. Vous savez, comme à l'école, on se fait taper sur les doigts quelquefois. Hein ? Eh bien, la vie, c'est ça. Mais de l'autre côté, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus le mal. Il n'y aura plus tout ce que nous connaissons, toutes ces choses qui nous font pleurer, qui nous donnent du chagrin. Ça n'existera plus. Ça sera véritablement la perfection et l'infinité de Dieu. Amen. Ah oui, ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il est dit, je vous laisse une année de grâce pour montrer que il y a là quelque chose d'infini. Le jour d'aujourd'hui, une semaine, un mois, une année, maintenant et à jamais, Jésus conclut, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Ne vous faites pas de soucis, il est là, il vous bénit ce matin, mais saisissez le moment propice et émerveillez-vous de la grâce que Dieu vous a faite de vous sauver. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Nous voulons véritablement, Père éternel, eh bien, te remettre notre vie, notre corps, notre cœur, notre âme, notre esprit, c'est-à-dire notre être entier. Et merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas fixés, en effet, Père éternel, dans des choses inamovibles, mais tu nous as fixés véritablement dans le mouvement. Tu nous as fixés dans, eh bien, le cours des choses que tu as préparées selon ton bon plaisir pour que nous soyons heureux. Merci Seigneur, parce que, en effet, Seigneur, tu nous permets d'aller plus près de toi, de te connaître encore davantage, de t'aimer encore davantage, de savoir que nous avons besoin nous-mêmes de nous aimer nous-mêmes et de pouvoir aimer les autres, parce que l'amour est présent partout. Et nous te bénissons et nous te remercions. Seigneur, défais les liens, brise les chaînes, Seigneur. Donne-nous, en effet, Seigneur, de pouvoir être ce que tu as décidé que nous soyons. Il y a un but à atteindre, mais nous avons besoin vraiment, eh bien, de lire ta parole. Nous avons besoin d'être, en effet, dans cette communication avec le Verbe incarné qui est Jésus, vivre comme Jésus et accepter, Seigneur, même des choses qui nous paraissent complètement difficiles pour nous, mais d'accepter, Seigneur, parce que ton plan, tes projets, ta volonté, c'est toujours la meilleure pour nous. Amen. En préparation d'un ciel parfait que tu nous réserves. Merci, Jésus. Amen. Amen.